a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Avec Emmanuel Macron dans ce budget, ce sont toujours les mêmes qui vont payer.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche Politique.
Philippe Le Caplin.
Avec Fanny Plechner, ce que disent les uns et les autres. Et puis nous décrypterons cette parole politique avec vous, Nicolas Tinzer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous présidez le Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Demain soir, le Premier ministre sera à Caen pour accompagner Nathalie Loiseau dans le meeting pour les élections européennes sous la bannière de La République En Marche. Mardi soir, ce sera Marine Le Pen de RN qui tiendra une réunion électorale dans les Ardennes. Laurent Wauquiez de LR sera lui en Meurthe-et-Moselle jeudi soir. Bref, la campagne est enfin vraiment lancée dans la perspective des élections européennes. Il faut dire que dans 3 semaines, nous serons en édition spéciale sur RFI pour accompagner cet événement électoral. Il sera d'ailleurs quasiment impossible de vous donner le résultat complet, car il y aura pas moins de 33 listes. Elles ont été officiellement déposées avant-hier. Nicolas Tinzer, 33 listes, c'est un record. Et cela témoigne d'un éclatement de l'échiquier politique en France.
Cela témoigne d'un éclatement et de la volonté d'un certain nombre de petits groupes, de petits partis, de faire parler d'eux autant qu'ils le peuvent. Parce que pour la plupart, ils ne sont pas connus, ils ne sont pas représentatifs, ils se sont constitués uniquement pour ces élections. Et ils n'ont évidemment aucune chance de dépasser la barre des 5% qui est totalement nécessaire pour avoir des élus au Parlement européen. En revanche, c'est vrai qu'ils peuvent, dans un contexte de vote protestation ou de lassitude, emporter ou distraire un certain nombre d'électeurs des listes les plus importantes.
D'ailleurs, on notera que, alors que les Gilets jaunes hier n'ont jamais été aussi peu nombreux dans la rue, hein, seulement 19 000, il y a 3 listes de Gilets jaunes pour les européennes, sans compter que 2 anciens Gilets jaunes historiques, on va dire, figurent sur des listes de droite. Cela montre que le mouvement réussit finalement à perdurer dans les urnes.
On va voir les résultats. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de dirigeants de ces mouvements qui ne représentent d'ailleurs qu'eux-mêmes, qui essayent de se placer sur un certain nombre de listes, et ce n'est pas étonnant d'ailleurs que 2 d'entre eux figurent sur des listes d'extrême droite, parce qu'on a vu vers où ce mouvement penchait ces derniers temps. En tout cas, je ne parle pas évidemment du début du mouvement. Beaucoup d'autres se reconnaissent nécessairement dans d'autres partis ou ne se reconnaissent dans personne, mais je pense en tout cas que ces leaders autoproclamés ne témoignent pas de ce qui n'est d'ailleurs pas un mouvement, mais finalement une agrégation de protestations diffuses, peut-être cohérente au début, exprimant des vraies protestations, des vrais sujets de préoccupation et d'inquiétude, mais à la fin seulement une envie de protester pour rien, en quelque sorte.
33 listes, cela veut dire que les listes des partis historiques sont noyées. Est-ce qu'elles ont des raisons de s'inquiéter? Est-ce que les partis traditionnels ne risquent pas de voir leur électorat grignoter de ci, de là?
Ils peuvent être grignotés. Il faut quand même savoir que les élections européennes, depuis qu'elles existent, ont toujours été des élections où le vote de protestation, le vote contre, s'est exprimé beaucoup plus que le vote pour. Malheureusement, ces élections qui devraient être une occasion de débattre de l'Europe, du futur de l'Europe, se sont traduites par une envie, en quelque sorte, d'en découdre avec le pouvoir. Et c'est vrai que les partis qui sont au pouvoir, traditionnellement, n'ont pas eu toujours les succès escomptés. Il faut quand même se rappeler, si on prend les élections, par exemple, de 2014, que déjà, le Front National avait fait 24,9%, que ce Front National avait eu souvent des scores supérieurs à 10, sauf en 2009. On a vu aussi des partis, dans d'autres moments, essayer de tirer leur épingle du jeu contre le gouvernement en place.
On reviendra sur, en tout cas, les pronostics de résultats dans quelques minutes dans Dimanche Politique. Fanny Blechner, vous avez écouté attentivement ce qu'ont déclaré les ténors politiques sur les ondes et vous avez noté qu'un thème revenait souvent, c'est l'écologie.
Oui, l'écologie semble aujourd'hui être l'un des sujets de préoccupation majeure, ou du moins celui le plus mis en avant. La tête de liste à l'REM Modem, Nathalie Loiseau, assure que cela est compatible avec une politique d'agriculture commune à l'échelle européenne.
C'est justement parce que on veut une agriculture plus verte, une agriculture plus respectueuse de l'environnement, une agriculture qui protège mieux à la fois les agriculteurs et les consommateurs, qu'elle a besoin de soutien. Et c'est précisément ce que nous représentons dans la liste que je porte. Le fait que les écologistes et les agriculteurs se parlent avec le même projet, pas les uns contre les autres, mais ensemble pour trouver des solutions.
Et pour que cette transition énergétique puisse voir le jour, Nathalie Loiseau plaide pour un vaste plan d'investissement de 1 000 milliards d'euros d'ici à 2024.
Aujourd'hui, c'est 1% de l'épargne européenne qui finance la transition écologique.
Concrètement,
avec une banque européenne du climat qui soutient les prêts, avec des prêts garantis, avec des prêts à taux préférentiels, pour qu'enfin les banques soient derrière les énergies renouvelables, derrière l'isolation des logements, derrière les transports propres, derrière tout ce qui fait qu'on sera au rendez-vous de la transition écologique, qui est la première urgence en Europe.
Nathalie Loiseau, invitée aujourd'hui de Questions politiques sur France Inter, à qui Raphaël Glucksmann, tête de liste Place Publique PS, répond ceci: la politique écologique ne doit pas passer uniquement par la création d'une banque climat, mais aussi par la création d'un budget climat.
Ce budget climat, il suppose ces taxes dont on parle sur les bénéfices des grandes sociétés. Ce qu'on entend partout, c'est de dire non à l'écologie punitive, mais pour proposer une alternative, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer qu'en fait, en prenant l'argent là où il est, on peut faire de la transformation écologique, justement, une réhabilitation du sens de justice sociale.
Mais Manon Aubry, tête de liste à la France Insoumise, estime quant à elle qu'il est impossible de mettre en œuvre ces projets en l'état.
Comment Monsieur Glucksmann peut défendre un taux d'imposition commun pour financer la transition écologique quand ils veulent rester dans le cadre des traités européens actuels qui interdisent l'harmonisation fiscale et qui interdisent la mise en place de cet impôt? Nous, nous sommes en faveur, mais nous allons jusqu'au bout de la démarche en proposant d'autres règles européennes qui sortent des règles actuelles qui empêchent ces règles-là.
Manon Aubry, tête de liste à la France Insoumise, invitée de Dimanche Politique sur France 3.
Nicolas Tinzer, on vient d'entendre que l'écologie est un thème de cette élection et non pas la question migratoire comme on le pensait ces derniers mois. Pour quelles raisons?
Tout simplement parce qu'on s'aperçoit qu'un très grand nombre de citoyens européens, et notamment de Français, considèrent que l'écologie est une priorité. Mais ça fait aussi partie des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que beaucoup de Français disent oui, tout à fait, nous souhaitons plus d'écologie, nous souhaitons un environnement plus sain, plus sûr, une meilleure protection également, des aléas liés au changement climatique, à la pollution, etc. Mais dès qu'il s'agit de payer pour cela, évidemment, il n'y a plus personne. Et c'est, je pense, un des vrais sujets qui se trouve derrière ces débats et dont on a entendu quelques extraits. Comment est-ce que l'on finance cette transition énergétique? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait un budget européen plus important? Mais que ça veut dire, soit on invente des impôts européens, ce qui est quand même quelque chose d'assez nouveau. Pour aujourd'hui, il n'y a certainement pas de majorité parmi l'ensemble des pays européens pour cela. Soit on décide de sacrifier un certain nombre d'autres dépenses pour mettre le paquet, en quelque sorte, sur l'écologie. Est-ce qu'on réoriente, par exemple, ce qu'on appelle le plan Juncker, qui avait prévu notamment de développer beaucoup d'investissements? Comment est-ce qu'on finance cette banque sur le climat, qui avait déjà été évoquée dans la lettre d'Emmanuel Macron, publiée dans l'ensemble des pays européens? Ce sont toutes ces questions-là où il faudrait vraiment débattre, parce que parler de l'écologie, tout le monde est pour, mais on s'aperçoit aussi que l'ensemble de nos partenaires européens ne sont pas tous sur cette ligne. Quand on voit combien coûte un kilowatt d'électricité produit, on voit qu'il y a des différences entre les pays européens, avec des différences, je n'ai plus les chiffres en tête, qui vont facilement de 1 à 10 en termes d'émissions carbone. On doit avancer dans ce sens-là, on ne peut pas attendre non plus de l'Europe tout. C'est d'abord à l'ensemble des États, aux collectivités locales et aux citoyens eux-mêmes dans leur comportement quotidien de faire beaucoup pour le climat.
En tant que président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique, est-ce que vous retrouvez dans cette campagne la question d'un projet européen comme l'avait brossé le président de la République dans la tribune publiée dans les journaux de plusieurs pays européens dont vous parliez il y a de cela quelques instants?
Écoutez, c'est là où je suis, je dois dire, extrêmement déçu par l'ensemble des propos des responsables des listes. Emmanuel Macron, effectivement, avait d'abord gagné en quelque sorte sa campagne présidentielle sur l'Europe. Enfin, il avait fait largement sur l'Europe, il avait évoqué ça dans sa lettre aux Français, aux autres pays européens, aux autres citoyens. On s'aperçoit que, par exemple, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, en Syrie, vous assistez à quelque chose qui relève de crimes de guerre, à nouveau commis par Monsieur Poutine et par le président Assad, avec le bombardement d'hôpitaux, bombardement de civils. Il y a déjà des centaines de morts depuis une semaine. Vous voyez, en Ukraine, à 3 heures de Paris, de l'Europe, à 3 heures de Paris, vous avez une guerre qui n'arrête pas de faire un grand nombre de morts. Tout ça parce que nous avons un État qui a décidé de déstabiliser l'Europe, qui le fait également par un grand nombre d'informations fausses. Qu'est-ce que ça veut dire que se réarmer, qu'assumer la puissance de l'Europe dans ce contexte? Ce sont ces sujets-là Parce que tout simplement, nos valeurs, nos principes, les règles du droit international, les droits de l'homme sont menacés. Et c'est pas une puissance abstraite. Il y a des ennemis, ces ennemis, il faut les nommer.
Il
n'en est absolument pas question. Ce que j'appellerais l'Europe géopolitique n'est pas au centre des discours de l'ensemble des candidats. Donc je pense que ça, c'est le vrai sujet. L'Europe se définit évidemment par des grands principes, des grandes valeurs, et je suis personnellement totalement attaché à ces principes et à ces valeurs. Mais défendre ces valeurs, c'est aussi lutter contre des ennemis.
Qui remportera ce scrutin européen en France? À défaut de savoir lire dans une boule de cristal, il convient de se référer au sondage. Pour la première fois, le RN est donné en tête des intentions de vote par deux instituts, avec 1 à 3 points d'avance sur La République En Marche, même si une enquête Harris Interactive donne La République En Marche devant avec 23,5%. Et Fanny Blechner, on a 20% pour le Rassemblement National.
Et du côté de la majorité présidentielle, l'objectif est clairement d'arriver devant l'extrême droite. Nathalie Loiseau, tête de liste à l'REM.
J'ai toujours dit que je souhaitais battre le Rassemblement National. Je le souhaite pour les Français. Je le souhaite pas pour mon orgueil personnel. Je pense que ça fait 5 ans. Je pense que ça fait 5 ans que le Rassemblement National, ou le Front National à l'époque, était le premier parti de France au Parlement européen. C'est 5 ans de perdu.
Mais l'opposition est plutôt sceptique, à l'image de Raphaël Glucksmann, tête de liste Place Publique PS, qui estime que La République En Marche ne se positionne pas suffisamment contre le Rassemblement National.
Quand on entend les macroniens dire qu'ils sont le rempart face au Front National, mais c'est un rempart de papier, c'est de la stratégie électorale. En réalité, ils reculent sur toutes les idées. C'est pas seulement sur la question des migrants qui n'assument pas d'être un rempart idéologique au Front National, sur la question des libertés publiques qui reculent, sur la question de la solidarité européenne. Moi, je suis marqué par la manière dont ils ont une Europe un peu honteuse.
Raphaël Glucksmann qui insiste par ailleurs sur la trop courte durée de cette campagne.
On parle d'Europe tous les 5 ans. Et pourtant, 80% des règlements qui impactent notre quotidien sont décidés à l'échelle européenne. Et là, je vois bien que le président de la République essaye de faire la campagne la plus courte possible. Vais-je parler? Vais-je parler? Quand vais-je parler? Et résultat, on a une campagne courte. Donc il faut qu'on parle d'Europe.
Une campagne qui serait donc trop courte, d'où l'inquiétude de Manon Aubry, de la France Insoumise, qui s'interroge sur le nombre de Français qui se rendront aux urnes.
Le premier enjeu pour nous, pour être honnête, c'est vraiment celui de la mobilisation. Et donc moi, je veux dire à tous ceux qui hésiteraient à aller voter, parce qu'on a un taux d'abstention attendu à plus de 60%. Donc à tous ceux qui hésiteraient d'aller voter, je veux leur dire ne pas laisser Emmanuel Macron remporter le scrutin.
Rien n'est joué pour le moment, c'est aussi ce qu'est sur la tête de liste à Les Républicains, Xavier Bellamy.
Moi, je ne crois pas aux sondages et je ne crois pas qu'on fasse de la bonne politique le nez collé sur les sondages. Et je continue ce travail persévérant avec toute l'équipe qui m'accompagne pour aller tous les jours au contact des Français.
François-Xavier Bellamy, tête de liste à la rose européenne, dans En toute franchise sur LCI.
Deux choses, Nicolas Tanzer. Tout d'abord, sur le niveau de l'abstention qui s'annonce record.
Déjà, c'était un record lors des précédentes élections européennes. Je rappellerai les chiffres de 2009. 59,4% d'abstention, 59,3% en 2014. Même en 1999 déjà, c'était 53,2%, 57,2% en 2004, etc. Donc c'est malheureusement une constante. C'est complètement paradoxal parce que ça a été rappelé tout à l'heure, ça c'est une réalité. L'ensemble de nos règlements, de nos directives sont largement décidés au niveau européen. C'est un enjeu commun. Et je crois que si le parti des abstentionnistes finalement gagne ce scrutin, ce sera une mauvaise nouvelle pour tout le monde.
Et puis tout à l'heure a été publiée la dernière vague du sondage quotidien Harris Interactive pour le Figaro. Entre autres, la liste emmenée par Raphaël Glucksmann vient de chuter à 4,5%. Elle passe donc sous la barre des 5% qui est le seuil minimal pour faire élire des eurodéputés à Strasbourg.
Ah, ce serait une sorte de dégringolade, de catastrophe incroyable. Là aussi, rappelons quand même les chiffres pour mettre en perspective. 2004, c'était pour le PS et les radicaux de gauche 28,9%, 16,5% en 2009, 14% en 2014, et là on descendrait peut-être à moins de 5%. C'est une catastrophe, mais ça obligera probablement la gauche socialiste à se refonder, à se repenser complètement.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. Le fake news venait de l'intérieur. C'était le titre qui barrait toute la une du journal Libération avant-hier. Cela a été la polémique de la semaine après les manifestations du 1er mai, la présence de gilets jaunes à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le ministre de l'Intérieur a parlé puis s'est déjugé. Christophe Castaner a dû faire son mea culpa pour avoir dénoncé une attaque. En fait, il n'en était rien. Cela a été dénoncé comme une fausse information, voire un mensonge, Fanny.
Rappelez-vous, le soir même du 1er mai, le ministre de l'Intérieur parlait de ceci.
Des gens ont attaqué un hôpital.
Il est finalement revenu sur ces mots vendredi.
Intrusion violente, c'est le mot qu'a utilisé la directrice de l'hôpital. Attaque, c'est celui qui m'est venu après avoir entendu le récit ému des personnels. Je n'aurais pas dû l'employer.
Une démarche qu'a approuvée le Premier ministre Édouard Philippe.
Je crois savoir que le ministre de l'Intérieur a corrigé son propos. Il a sans doute eu raison de le faire en choisissant le terme qu'il a utilisé. Et je n'ai pas d'autre commentaire à faire, sinon qu'il a évidemment, et comme depuis le début, toute ma confiance.
Toujours du côté de la majorité, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, aujourd'hui invitée de BFM Politique, condamne la proportion qu'a pris cette affaire.
On peut jouer sur les mots, c'était une intrusion ressentie de façon très violente par les personnels qui étaient présents. Ils ont eu peur. Arrêtons d'en faire tout un plat. Je trouve qu'il y a eu un emballement médiatique, un déferlement absolument incroyable. Le ministre de l'Intérieur n'a jamais parlé d'attaque délibérée.
Un procès médiatique aussi condamné par Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche, qui estime qu'il y a une véritable perte de repères dans le débat politique et médiatique.
Le ministre de l'Intérieur a su changer la doctrine d'intervention, aller davantage au contact. L'ordre a été maintenu. Alors, donc je crois qu'il faut maintenant passer à autre chose. L'opposition pourra interroger le ministre de l'Intérieur. Mais encore une fois, la priorité pour les Français, c'est l'ordre. Et vous ne me ferez pas dévier de cette ligne-là.
Mais l'affaire n'est pas close pour Manon Aubry, tête de liste La France Insoumise.
Je ne sais pas où est-ce que vous voyez un mea culpa. Il continue à parler d'intrusion violente. À quel moment y a-t-il eu une intrusion violente? Je n'ai à aucun moment vu une intrusion violente. Et puis, Christophe Castaner en est loin d'en être à son premier fait d'armes.
Manon Aubry qui s'exprimait dans Dimanche Politique sur France 3. François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains, lui n'appelle pas à la démission du ministre de l'Intérieur, mais il voit dans ces événements un échec du gouvernement.
C'est vrai qu'on en arrive quand même à un échec considérable dans le maintien de l'ordre quand cette violence de ces manifestations, y compris du fait de cette incapacité à endiguer, à canaliser une manifestation, finit par déborder dans un service d'urgence et de réanimation.
François-Xavier Bellamy qui s'exprimait sur LCI.
Nicolas Tinzer du CERAP, député, sénateur socialiste, communiste, sont de leur côté montés au créneau pour réclamer l'audition du ministre devant le Parlement. D'autres responsables politiques ont réclamé sa démission. Ce n'est pas la première fois que Christophe Castaner se trouve en difficulté. Est-ce que c'est le maillon faible du gouvernement?
Le ministre de l'Intérieur, surtout dans une période de tension, d'événements aussi graves, de violences incroyables du côté des Gilets jaunes et des Black Blocs, est évidemment sous une tension. Je pense que c'est totalement normal. Là, c'est vrai qu'il y a eu un événement, mais qui était effectivement ressenti, on l'a vu, dès les réactions de Martin Hirsch, le directeur général de la PHP, avec la directrice de l'hôpital Salpêtrière. On a eu un moment effectivement d'émotion, mais d'émotion aussi dans un contexte où des violences considérables avaient déjà eu lieu. C'est ça qu'il faut aussi rappeler. Et puis le personnel, le témoignage du personnel quand on l'entend est effectivement inquiétant. Vous savez, une salle de réanimation, ça doit être un endroit protégé. Donc il y a eu une erreur. Ensuite, il y a eu effectivement, je pense, un mea culpa d'une certaine manière. On a corrigé le tir. Encore une fois, le ministre de l'Intérieur est toujours dans une situation difficile dans ces moments, encore une fois, de très grande tension et de grande violence. C'est normal.
Alors, il y a les difficultés du ministre de l'Intérieur et puis les choses se passent plutôt bien pour Emmanuel Macron puisque la cote de popularité du président de la République s'établit à 26% d'opinion favorable, si l'on en croit le baromètre pour le mois de mai de YouGov, pour le HuffPost et CNews. Cela confirme le redressement de la popularité du président de la République, débuté avec l'annonce du grand débat. En fait, Emmanuel Macron peut dire merci aux Gilets jaunes.
Bah oui, dans la mesure où les excès des Gilets jaunes, les violences rencontrées, le propos parfois extrêmement brutaux d'un certain nombre de partis d'extrême gauche et d'extrême droite, ont fait apparaître le président de la République comme une forme de pôle de stabilité et de raison. Maintenant, encore une fois, avec 26%, c'est certes une remontée, mais il n'y a pas de quoi pavoiser. On va voir surtout avec les élections européennes comment cela va se traduire pour lui, enfin plutôt pour la liste En Marche et Alliés, qui malgré tout est censée porter le message du président de la République au sein de l'Europe. C'est quand même ça la vraie question.
On verra bien. En attendant, est-ce qu'on peut dire que Emmanuel Macron a tourné la page Benalla, puisque ce taux de satisfaction nous ramène à mai 2018?
Oui, cette page-là, heureusement, est tournée, d'une certaine manière. Je crois qu'aujourd'hui, il est plus important de juger ou d'apprécier le président de la République et le gouvernement sur ce qu'ils font, sur leurs mesures, qu'on peut approuver ou ne pas approuver. C'est quand même là-dessus, et je pense que c'est important qu'on ait un débat politique qui se centre d'abord, effectivement, sur l'ensemble des mesures, des projets plutôt que sur des affaires anciennes. Maintenant, cette affaire, effectivement, elle restera, effectivement, et toutes les enquêtes judiciaires vont continuer de toute manière.
Merci pour ces commentaires, ces analyses. Nicolas Tinzer, président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. La politique encore sur RFI, ce sera demain matin Raphaël Glucksmann, qu'on a entendu tout à l'heure, tête de liste aux élections européennes, notamment pour le Parti Socialiste, qui sera l'invité de la rédaction demain matin. L'épopée.